La presse dans tous ses débats, une émission proposée par l'agence Alter en partenariat avec Bruxelles nous appartient, enregistrée depuis la Maison de la presse et de la communication de Liège.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce débat consacré à la presse dans tous ses débats, mais aussi dans tous ses états. Ça fait longtemps que le magazine Alter Echo souhaitait consacrer un sujet à cette question. Et pour cause, pour notre magazine, 2022 est synonyme d'un anniversaire avec la parution de notre 500e numéro. Et à cette occasion, la rédaction a amorcé une réflexion sur son identité. Si chaque mois, nous nous efforçons de nous demander pourquoi on écrit tel ou tel article, sous quel format, pourquoi consacrer un dossier à tel ou tel enjeu, il nous faut aussi pouvoir nous arrêter, nous regarder dans le miroir et du haut de nos 26 printemps, 500 numéros, nous poser cette question existentielle et essentielle du « qui sommes-nous ?», mais aussi « après quoi et pourquoi courons-nous ?». D'autant que ce quart de siècle d'existence a vu se modifier en profondeur le monde médiatique, concurrence déloyale, des GAFAM, la transformation des habitudes d'achat et de lecture, la diffusion de fake news et la défiance grandissante à l'égard des médias, sans parler de la détérioration inquiétante des conditions de travail des journalistes. Mais dans ce ciel un peu maussade, il y a quand même quelques éclaircies, car 2022, c'est aussi le synonyme de la naissance de Kiosque, un collectif pluriel de médias belges, francophones et libres, fondé au printemps dernier autour de valeurs et de réalités communes. Kiosque est composé de ses titres, Alter Echo, Axel, Imagine, Le Ligueur, Médor, Tchac et Wilfried. L'ADN de ce collectif est d'abord un journalisme ancré dans la déontologie et la défense de la justice sociale par l'exposé des faits et la pertinence de l'analyse. Au quotidien, ces titres de presse réalisent avec humilité mais exigence et conviction un travail d'intérêt général qui nourrit le débat public. Et pour y parvenir, chacun a fait un pari, celui de l'alliage entre investigation, analyse en profondeur, reportage de terrain et, pour ce qui concerne notre revue Alter Echo, en étant au plus proche de celles et ceux qui vivent les inégalités. Alter Echo fait du journalisme social, mais le journalisme social est-il une espèce médiatique en voie de disparition? On peut s'en inquiéter si l'on regarde les productions des médias généralistes qui diversifient peu leurs sources, qui pensent d'en haut, oubliant parfois de tendre le micro à toute une frange de la société. Dès lors, comment enrichir le débat démocratique si certains médias oublient de porter la voix des exclus, de ceux qu'on ne veut pas voir et entendre, mais aussi de décrypter et analyser les mécanismes inhérents à la création de ces inégalités? Autant d'aspects que nous allons aborder pendant ce débat avec nos invités. Sabine Planet, vous êtes rédactrice en chef d'Axel, Hugues Dorzet, rédacteur en chef d'Imagine Demain Le Monde. Et je vous propose, pour commencer, c'est une question, c'est un peu une arlésienne pour les médias, mais d'évoquer à la fois les réalités économiques et l'indépendance journalistique. Il y a aussi parfois, de la part du grand public, beaucoup de fantasmes là-dessus. Mais dans vos médias respectifs, comment vous conciliez cette double contrainte entre à la fois, pour dire simplement, vendre votre magazine, avoir le plus de lecteurs possible, et d'autre part, conserver aussi l'ADN de ce qu'est le journalisme, c'est être indépendant de toute influence, et notamment commerciale et autres. Sabine.
Mais donc, merci beaucoup, merci pour cette invitation. Nous, à Axel, pour l'instant, donc Axel Magazine, c'est un magazine féministe, qui existe depuis 1998. Donc nous aussi, on en est presque au quart de siècle. Je pense que c'est le cas de nous tous réunis autour de la table. Donc nous, pour l'instant, la question, elle ne se pose pas en ces termes, mais en fait, elle ne s'est jamais posée exactement en ces termes non plus. Nous, on est un magazine qui est indépendant de tout groupe de presse, de tout parti politique, et on est adossé à un mouvement d'éducation permanente qui a la forme d'une association. Et je pense que ce sera intéressant d'y revenir tout à l'heure quand on réfléchira aussi à la façon de peut-être refaire le lien entre les citoyens, les citoyennes et les médias. Je pense qu'il faut aussi penser à la gouvernance et aux structures qui sous-tendent les médias. Et je crois que la question d'avoir un intérêt commercial est une vraie question qu'il faut se poser. Nous, en tous les cas, on est adossé à une ASBL avec notre indépendance journalistique. Et cette association qui est Vie Féminine, qui est donc ce mouvement d'éducation permanente féministe, on en partage les valeurs. On en partage certaines pratiques, certaines façons de faire, certaines façons d'être avec les personnes avec lesquelles on est en contact, les témoins, les expertes qui pour nous sont en fait toujours les mêmes personnes. On ne fait pas forcément cette distinction. Donc pour nous, la survie économique, ce n'est pas une tension entre... C'est pas une tension, en fait, avec l'indépendance journalistique. Je peux tout à fait comprendre que ça puisse être le cas, le lien avec les annonceurs, voilà, la survie de... la nécessité de devoir vendre dans un contexte dont aussi je pense qu'on va avoir l'occasion de parler aujourd'hui. Nous, peut-être, ce qui se pose plus, c'est tout simplement notre survie de tout court, pas forcément la survie de notre indépendance. Et bien sûr, il y a la question du manque de financement. Nous, dans notre cas, la question du manque de financement à 100% du décret de l'éducation permanente, la difficulté d'obtenir des aides à la presse, le fait qu'elles soient plafonnées. Enfin, ça, je pense qu'on aura encore une fois l'occasion d'en reparler aujourd'hui. Le prix du papier, voilà, qui sont effectivement des choses auxquelles on est confronté et qui nous mettent en difficulté. Et donc, les questions qu'on se pose, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on répercute ça sur notre lectorat ? Ou est-ce qu'on peut avoir de la marge de manœuvre dans notre budget ? Mais on ne va pas se poser la question de notre indépendance journalistique. Enfin, voilà, je dis ça parce que c'est vrai que je pense que c'est une question pertinente. Et en même temps, nous, à Axel, notre façon d'y réfléchir, ce n'est pas en la pensant en tension, en fait. Ce n'est pas une tension entre survie économique et indépendance journalistique. Il n'y a aucune... négociation avec l'indépendance journalistique.
Et vous, Hugues, vous aussi, vous voyez pas ça comme une tension ? Néanmoins, ça reste une contrainte. Il faut quand même vendre du papier si on veut avoir des lecteurs.
Oui, tout à fait. Donc, merci pour l'invitation. Ben, effectivement, imagine, c'est un modèle économique un peu différent de celui évoqué par Sabine ici. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la particularité des 7 titres de kiosque. C'est leur le pluralisme aussi au niveau du modèle économique. Alors, chez Imagine, c'est une structure assez classique d'ASBL qui existe depuis, nous aussi, 25 ans, qui s'inscrit dans l'économie sociale, solidaire, non marchande, avec actuellement 5 salariés, bientôt 6, et une série de collaborateurs qui gravitent autour, rédacteurs, graphistes, etc. Donc, c'est une petite fabrique, moi j'aime bien dire une petite entreprise à taille humaine, avec un modèle économique mixte qui est assez intéressant, assez hybride, qui s'articule à la fois sur 65% de recettes propres, donc c'est la vente par abonnement, la vente en librairie, un petit peu de recettes publicitaires, mais là aussi avec une volonté d'être cohérent par rapport à nos valeurs, donc il y a une charte éthique par rapport au type d'annonceur qu'on accueille. Et donc le reste de notre financement vient d'aides publiques, à la fois le CNCD 1111, qui est la coupole de 90 ONG aujourd'hui en Belgique, qui nous aide pour le volet davantage nord-sud, et puis on bénéficie effectivement, nous, de l'aide à la presse dite d'opinion, périodique d'opinion, qui est effectivement une aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc tout ça fait un modèle économique hybride, comme je disais, qui est intéressant, qui a, si on avait la possibilité, on essaierait d'être encore plus autonome qu'on ne l'est aujourd'hui, parce que c'est notre, pour reprendre la question qui est posée, on aimerait être 100% redevable uniquement vis-à-vis de nos lecteurs. Alors c'est déjà pas mal, parce que l'avantage d'Imagine, c'est qu'on est aujourd'hui dans notre lectorat, 85% sont sous forme d'abonnement. Donc on a une communauté de entre 3 500, 3 600 et 4 000, plus les ventes occasionnelles en librairie. Mais donc le fait d'avoir comme ça un lectorat assez stable, qui choisit la domiciliation bancaire, qui est assez engagé dans le temps, est aussi un gage de longévité. Mais il ne faut pas se le cacher, la période est difficile pour tout le monde, pour tous les titres. On y reviendra, je pense que c'est ça qui est important, c'est que la question économique est capitale, évidemment. C'est pour ça qu'Imagine, par exemple, est dans une grande réflexion sur sa gouvernance pour 2023, de passage en coopérative, avec toute une réflexion sur à la fois intégrer les lecteurs dans la gestion du média, pas du tout sur le plan éditorial, ça c'est certain, mais sur le plan de la gestion, de la vision, du développement éditorial et commercial à terme, etc. Donc je pense que cette question, elle est évidemment importante. Et dernière chose, et avant de vous céder la parole, mais juste pour dire, c'est que chez Imagine, on a fait le choix, par exemple, du salariat. Alors ça peut paraître évident, mais pour faire du bon journalisme, du journalisme de fond, au long cours, avec de la valeur ajoutée, etc., il faut donner du temps aux journalistes. Donc nous, le fait qu'on ait une rédaction de 4 salariés permanents, ça leur donne effectivement un certain confort, entre guillemets. Il n'y a pas la pression des journalistes indépendants qui sont sous, dans des conditions précaires, qui doivent produire beaucoup, etc. etc. Donc les deux sont évidemment intimement liés. Les modes de financement, les modes de gouvernance, comment on peut réinventer aussi tout ça, et la question de l'indépendance journalistique, mais on pourra en reparler après si besoin.
Mais vous disiez justement tous les deux que la période n'est pas facile. Vous évoquiez le prix du papier. On a vu aussi la crise, évidemment, Covid. Est-ce que ce contexte pèse-t-il pour innover? Apparemment, si je vous entends, Hugues, il y a quand même une réflexion. Donc, cette période, même si elle n'est pas facile, ça pousse aussi à changer dans les rédactions la manière aussi de fonctionner.
Oui, juste effectivement, la période Covid a été évidemment très dure pour tout le monde. Fermeture de librairies, perte d'habitude de lectorat, culte de l'écran et tout ce qui va avec. Donc il faut aussi redépasser un peu cette crise conjoncturelle. Et puis vient se superposer après d'autres crises, de l'énergie, du papier, etc. etc. Mais plus fondamentalement, c'est la question de comment effectivement... malgré ces crises qui ne vont faire que se conjuguer, économique, sociale, climatique, etc., comment, en tant que média, on peut continuer à être inventif, créatif, comment, dans les pratiques journalistiques qu'on a, comment on peut renouer avec les citoyens pour casser cette défiance dont vous parliez tout à l'heure, et tout est imbriqué. Donc je pense que c'est à la fois une grande opportunité, c'est plus difficile sans doute, parce qu'on n'a pas les coups des franges de grands groupes de presse, on n'a pas de cash flow derrière, on a des moyens limités, mais il y a beaucoup d'énergie. La preuve, ce collectif Kiosque où on a senti sept médias de petite nature, entre guillemets, qui s'unissent et qui ont envie de faire peser leur voix.
Et pour vous, Sabine, aussi, la période est source aussi d'innovation.
Oui, je partage tout à fait le constat d'Yves par rapport aux difficultés traversées. Nous, à Axel, le Covid a été vraiment un rouleau compresseur. Et en même temps, de nombreuses crises peuvent surgir des innovations aussi. Donc nous, on est une toute petite rédaction. Et on sortait un magazine mensuel en étant en télétravail, confiné. Moi, ma fille était toute petite. C'était vraiment des conditions assez apocalyptiques. Donc, on sortait non seulement le mensuel, mais en plus, on avait un traitement redoublé en fait de l'actualité, notamment avec notre regard féministe sur l'actualité, parce que il nous semblait que c'était nécessaire et que personne ne le faisait. En tout cas, à ce moment-là, au tout début de la crise du Covid, avec notamment l'engagement des couturières, etc., nous, on a vraiment senti notre responsabilité journalistique à traiter ce sujet. Donc, la journée, on essayait de survivre au confinement et de sortir le mensuel. Le soir, la nuit, le week-end, on faisait le traitement web et le traitement de l'actualité, puisque nous, on est moins un magazine d'actualité, puisqu'on a ce rythme, bon, qui est maintenant un rythme bimestriel. C'est uniquement sur notre site internet, voilà, qu'on traite de l'actualité. Donc, ça nous a poussé à aller réaliser davantage ce traitement qu'on faisait un petit peu moins auparavant. Et ça nous a énormément questionnés sur notre propre mode d'organisation, sur notre rythme, en fait, tout simplement, les besoins des lectrices. Donc on a fait une grande enquête de lectorat à la sortie de la crise, qui nous a permis de constater que nos lectrices étaient tout à fait prêtes, en fait, à ce qu'on passe en magazine bimestriel. Donc maintenant, on ne paraît qu'une fois tous les deux mois, on a un plus grand nombre de pages, ça nous laisse aussi plus de temps pour faire des sujets beaucoup plus en profondeur que ce qu'on faisait auparavant, où on était limité par le nombre de pages, et puis on était aussi sous l'eau, en permanence noyé par le rythme du bouclage mensuel avec notre petite équipe. Donc ça a permis de faire naître des innovations dont, en fait, bien sûr, les racines étaient déjà présentes, mais ça les a probablement mises davantage en lumière, et ça nous a aidés à passer à l'action, en fait, parce que je pense que, comme beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'associations, on s'est dit, on va pas revenir à la normale, ça n'a pas tellement de sens, mais qu'est-ce qu'on peut faire une fois posé un certain nombre de constats? Et nous, notre façon d'essayer d'aller de l'avant, c'était ce changement de rythme pour nous aider à y voir un peu plus clair et un peu plus loin, développer les contenus un peu d'actualité, mais aussi à notre façon, pas comme les autres, mais comme nous, on trouve juste de le faire par rapport à là où on est, aux paroles qu'on porte, aux histoires qu'on veut visibiliser, et aussi développer des formats plus intimes, comme typiquement le format du podcast. Et ça, c'est vraiment le fait d'avoir vécu cette crise confinée et d'avoir changé certaines habitudes qui nous a fait, nous aussi, évoluer. Mais bien sûr, une période de crise, c'est difficile même en termes de qualité. Comment faire une enquête au long cours? Comment rencontrer les témoins en étant à distance, en n'ayant pas cette relation humaine forte qui fait aussi la qualité de nos papiers? Oui, ça a posé beaucoup de questions, mais il y a beaucoup de réinvention aussi, et comme tu disais, je trouve très justement, beaucoup d'énergie.
Beaucoup d'énergie. Et je vous propose d'entendre aussi une autre source d'énergie, c'est celle de Médor, avec le témoignage de Quentin Noirfalis, qui nous évoque, eux, à la fois le modèle économique qu'ils ont choisi, mais aussi les réalités qu'ils rencontrent.
Donc en fait, le collectif Kiosk n'est pas uniquement en train de dire il faut plus d'aide à la presse pour la presse alternative et les médias qu'on représente. C'est une demande en fait d'un soutien et d'une reconnaissance du monde politique sur d'autres formes de journalisme. Et donc nous, on représente non seulement, je pense, et je peux parler, je pense, pour tous les médias qui sont membres de Kiosk, des voix alternatives, des voix de réflexion alternatives, aussi des manières de faire du journalisme qui sont aussi un peu différentes, avec du temps plus ou moins long, des méthodes graphiques, des méthodes de narration différentes. Donc tout ça, évidemment, ça enrichit. Et quand on se dit que dans Kiosk, on est déjà 6-7 médias à proposer finalement sur des angles de société très différents, des contenus très différents, des manières de traiter l'information très différentes pour des publics aussi très différents, avec des niveaux de spécialisation, etc. Je pense que c'est quand même assez important de reconnaître au niveau du politique cette richesse-là. Après, la question, c'est comment est-ce qu'il l'appuie. Alors évidemment, l'argent, ça aide toujours, mais il peut y avoir d'autres formes d'appui. Et en gros, est-ce que nous, on est plus précaires qu'avant? Je dirais, on a créé Médor parce qu'on se sentait précaire comme indépendant. C'était les premières discussions en 2012, 2013. Donc ça fait presque 10 ans maintenant. Un magazine comme Médor fait qu'on est effectivement mieux payé comme indépendant qu'on le serait dans pas mal d'autres médias. C'est pas du tout encore l'idéal, parce qu'on se rend compte qu'en fait, il nous faut des objectifs de vente. Il faudrait qu'on vende beaucoup plus en fait, pour être vraiment encore plus à l'aise dans nos baskets. Et donc c'est aussi toute une réflexion de se dire, est-ce qu'on est, nous, en tant que médias, arrivés en fait, parfois à une espèce de plafond de ce qu'on peut atteindre? Est-ce qu'on répond aux envies ou aux questionnements, etc., de personnes qui ne nous lisent pas et qui auraient potentiellement envie de nous lire? Est-ce que les gens sont encore intéressés de lire de la presse sous cette forme-là ou pas? Est-ce que, voilà, donc il y a une vraie réflexion de fond à avoir, en fait. Je pense que c'est toujours le truc de, il faut, effectivement, c'est bien, je pense, de toute façon, d'être soutenu, pas uniquement financièrement, et de trouver des manières, finalement, aussi pour que les citoyens soutiennent.
Le monde est un spectacle, il nous faut des miracles, des meurtres, des amants et des enterrements. Chantons les marionnettes, les princes des manchettes, que l'on anobliera grâce à la caméra. Tournez, tournez, rotative, pour les âmes sensitives. À tout cœur et à tout sang, à la prochaine je descends. Le métro chante sa chanson grise, je n'ai pas trouvé de place assise. Il me faut pour tenir le coup une histoire à dormir debout.
Et de retour pour ce débat dans de la presse dans tous ces débats. On a évoqué la question des finances et de l'indépendance, mais aussi le contexte actuel qui est propice à l'innovation malgré les difficultés. Il y a aussi un aspect, un enjeu démocratique, c'est de nourrir le débat public. Avec une vraie question qui s'est posée effectivement avec la crise Covid, mais qui est plus large et plus ancienne, c'est de savoir aussi comment restaurer la confiance entre qui lie les citoyennes, les citoyens et les journalistes. Est-ce que on est aujourd'hui dans un contexte en Belgique francophone d'une concentration, je veux dire, des médias généralistes traditionnels? Kiosk essaye aussi de se faire entendre dans ce concert, essaye de faire entendre sa voix auprès des politiques, mais aussi, je pense, des lecteurs et du public. Est-ce que, selon vous, pour restaurer cette confiance, c'est aussi de préserver, sauvegarder la diversité de la presse dans toutes les possibilités qu'elle a aussi, Hugues?
Bah, effectivement, ce phénomène de concentration, puisqu'on sait du côté francophone, il n'y a plus que deux grands groupes de presse principaux, avec évidemment tout ce qui va avec, c'est-à-dire les médias qui sont aux mains de financiers principalement, avec des économies d'échelle qui sont menées ça et là, des synergies entre rédactions, la mutualisation de certains services, etc. Le risque, évidemment, à terme, c'est une forme de perte progressive d'identité des médias et de pluralité aussi des titres. Ça peut être posé. Je crois que quelque part, c'est important de continuer à avoir un écosystème qui soit le plus vivant possible, qu'on ait des médias qui aient une âme, qui soient d'intérêt général, bien sûr, qui puisse pratiquer la déontologie, qui puisse pratiquer un journalisme varié, on pourra en parler plus tard, parce qu'il n'y a pas qu'une seule forme de journalisme pour combler cette défiance à laquelle on assiste. Mais je crois qu'effectivement, ce phénomène de concentration de la presse mainstream d'un côté, de l'autre, l'émergence et l'inventivité de plus petits titres comme les nôtres, je trouve est sain pour une démocratie, est nécessaire, indispensable. C'est ce qui nous anime au sein du collectif Kios, d'ailleurs. Parce que, alors ça ne veut pas dire évidemment que tous les confrères et consœurs qui travaillent pour des médias appartenant à des grands groupes ne sont pas des... Bien entendu, ce n'est pas une mise en cause du travail qui est mené, mais plutôt du système économique dans lequel on est. Alors on n'est pas encore la France ni les États-Unis, mais là-dessus, il y a effectivement une tendance à tenir à l'œil, parce que je pense que les citoyens, quand on voit le nombre de titres de presse qui existaient il y a 20, 30, 50 ans et aujourd'hui, il y a vraiment eu une diminution au fil du temps. Et ça me renvoie à une question qui me semble capitale. En janvier dernier, nous, avec Imagine, on a publié une lettre ouverte à nos lecteurs en disant... que l'information avait un prix, un juste prix, qu'on a habitué finalement pas mal de gens à la gratuité, qu'on est entré dans une logique de « il suffit de cliquer pour avoir de l'info » et en fait c'est bien plus compliqué que ça, parce qu'on sait que comme on a envie d'avoir de la nourriture de bonne qualité, produite par que les producteurs soient rémunérés décemment, qu'ils soient ici ou à l'autre bout du monde, mais par rapport à la presse et à l'information, c'est la même logique. La question du juste prix, de la valeur de l'information, et on sait combien elle est importante pour produire de l'information de qualité. Je le disais tout à l'heure, il faut du temps, il faut de l'intelligence, il faut du recul, il faut des moyens donnés aux journalistes, il faut qu'ils soient bien rémunérés, etc. Et donc, pour que les lecteurs nous suivent dans cette démarche-là, il faut qu'ils acceptent aussi de payer, entre guillemets, le bon prix de l'information. Et ça, c'est un enjeu, à mon avis, capital pour les années à venir.
Et justement, par rapport à la diversité, vous, avec Axel, vous l'incarnez peut-être plus que d'autres aussi, cette diversité. On sait, par exemple, c'est un secret pour personne, que dans les écoles de journalisme aujourd'hui, ce sont majoritairement des filles. Et on ne les retrouve pas forcément dans les rédactions. Et notamment, j'imagine qu'il y a là aussi un enjeu pour maintenir cette confiance, surtout à l'heure actuelle, de maintenir cette diversité.
Oui, tout à fait. Quand on pense à la presse et à la façon de la soutenir, on peut penser au niveau macro, on peut penser au niveau politique, mais on peut aussi penser au niveau micro, qui est tout aussi politique en fait, et qui est comment est-ce qu'on peut survivre en étant journaliste aujourd'hui. Et nous, une des paroles qu'on a envie de porter, parce que oui, c'est la façon dont on a été construite par des journalistes qui sont des femmes et qui sont principalement des indépendantes. Nous, on a malheureusement une petite rédaction salariée et la plupart de nos collaboratrices sont des journalistes freelance et les femmes sont massivement les pigistes. Et effectivement, comme tu le disais, elles disparaissent en fait assez tôt de la profession, bien qu'elles représentent la majorité des élèves dans les écoles, dans les différents lieux de formation. Ça pose la question de la maternité, ça pose la question de la parentalité, ça pose la question du sexisme dans les rédactions, du racisme dans les rédactions, ça pose la question de l'antiféminisme dans les rédactions. Nous, on est très souvent en contact avec des étudiantes en journalisme qui viennent débriefer avec nous et qui parfois se posent vraiment la question de la légitimité des sujets qu'elles ont envie de travailler en tant que futures journalistes et qui pensent qu'en fait, elles ne vont pas y arriver en tant que journalistes parce que vraiment, elles... On leur fait croire que leurs sujets ne sont pas légitimes ou sont, je parle des sujets, que ce soit les violences envers les femmes, le racisme par exemple, qui sont des sujets qui les portent et vraiment qu'elles ont très fort envie de traiter dans leur profession. Mais on leur pose, rien que cette semaine, j'ai eu deux retours de groupes d'étudiantes dont les professeurs posent des questions par rapport à leur objectivité, puisqu'elles sont des femmes et qu'elles traitent des sujets en lien avec des violences envers les femmes, ou parce que ce sont des personnes racisées et qu'elles veulent parler de ces questions-là. Enfin, donc les freins se mettent très très tôt en fait. Donc les freins liés à la maternité, à la parentalité, au racisme, au sexisme, à l'antiféminisme, les tabous journalistiques en fait dont on va parler aujourd'hui. Par exemple, la neutralité, je pense que c'est très important d'en parler et c'est très important de respecter la déontologie journalistique et c'est aussi important de pouvoir parler de la neutralité et en même temps de parler d'où on parle. Donc oui, je pense qu'il y a énormément de choses à faire au niveau micro, au niveau de la formation, au niveau de la conception même du métier, de ce qu'on en attend. Et c'est vrai que nous, notre façon de le faire à Axel, c'est simplement de nous entourer de journalistes qui sont extraordinaires et qui nous apprennent tous les jours sur le métier et la meilleure façon de le faire. Mais nous, à notre échelle, on va pas trouver la solution pour que les femmes pigistes soient rémunérées mieux. On fait ce qu'on peut, nous, à notre petite échelle à Axel. On est très heureuse de faire partie du collectif Kiosque qui va pouvoir, je pense, je l'espère sincèrement, porter ses revendications à un niveau un petit peu supérieur, à la vitesse supérieure. Et continue à soutenir le travail de chercheuses comme par exemple Manon Libert, Florence Lecalme et Lise Ménalque qui viennent de publier un ouvrage extrêmement important sur être femme journaliste en Belgique aujourd'hui. Oui, ça, je pense que ce sont des sujets qui sont tout aussi importants à porter que les sujets des aides à la presse, etc. Parce qu'on doit vraiment voir le travail journalistique comme un tout, et y compris dans ses angles morts et les angles qu'on a peut-être moins l'habitude de regarder dans les yeux.
Mmh. Pour vous, Hugo, aussi, cette diversité, c'est dans les équipes, dans ce que fait une rédaction, c'est aussi important.
Oui, tout à fait. J'imagine que ça fait partie des valeurs cardinales de l'entreprise, qu'on a redéfinies d'ailleurs dans le cadre d'une réflexion sur notre propre gouvernance, sur nos propres modes de fonctionnement, parce qu'on essaye d'allier à la fois nos valeurs, nos convictions dans l'entreprise et dans le traitement journalistique qu'on s'impose. Et notamment, ma consoeur Sarah Frère a élaboré avec Florence Lecam et d'autres un outil un peu intéressant qui s'appelle le baromètre genre et diversité, qui dans chaque numéro va screener entre guillemets notre approche en termes de photos, de sources, de langage, pour essayer de voir, tiens, est-ce qu'on atteint... Ce n'est qu'un work in progress, comme on dit, mais juste une manière d'essayer de voir, tiens, comment est-ce qu'on peut rééquilibrer en termes de sources, avoir des expertes à part égale, de voir comment on fait parler nos interlocuteurs, etc. Donc voilà, c'est un petit outil, mais qui doit être appelé à évoluer, et on en a d'autres comme ça. Donc, mais c'est indispensable, évidemment, d'accorder, alors dans le cadre du manifeste Imagine qu'on a créé, qui est un outil aussi important, qui est le nouveau contrat moral et intellectuel qu'on veut passer avec nos lecteurs, il y a cette question aussi d'accorder de la place aux minorités, plutôt invisibles, à toutes les personnes vulnérables, etc. Donc ça fait partie de nos exigences journalistiques numéro après numéro. Oui.
Et alors un autre aspect par rapport à ce débat public, on voit aussi dans cette défiance, et on est aussi à l'heure des fake news. J'imagine que dans les sujets que vous traitez, vous êtes aussi confronté à ce phénomène de déformation de l'information. La question est assez simple. Vous, comment vous expliquez finalement cette recrudescence? Est-ce que c'est simplement dû aux réseaux sociaux, ou est-ce qu'aussi, on parlait de la démocratie, mais ce n'est pas aussi un bruit de fond aussi qui de remise en cause, tout simplement, de notre démocratie?
Mais... En fait, c'est un peu aussi vieux que l'invention de la presse, à mon avis, mais ça s'est amplifié très, très fortement. Je me souviens avoir lu une phrase de Balzac qui disait « Si la presse n'existait pas, il ne faudrait pas l'inventer ». Ça date du 19e siècle, donc il y avait déjà une défiance très forte. On était considérés comme des proxénètes littéraires, des marchands de phrases, selon les chroniqueurs de l'époque. Donc il y a eu, je crois que les fake news ne sont que... un élément finalement du nouveau contexte médiatique dans lequel on est, où on est à la fois à la course à l'info, l'info devient une marchandise, on est dans une prolifération de nouvelles 24/24, afflux tendu, et donc il y a là une consommation de plus en plus individualiste aussi de l'information, un fossé qui est grandissant entre un journalisme industriel, je dirais, et un journalisme plus artisanal d'un côté. Il y a la question aussi, je reparlais tout à l'heure, du fait qu'on est habitué les gens à dire c'est gratuit, ça, il suffit de se baisser pour avoir de l'info, ce qui est faux. Et puis, évidemment, tous ces informédiaires, comme on les appelle, que ce soit les GAFAM, que ce soit les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, qui ne sont pas des médias, ils ne produisent rien, mais ils sont devenus omnipotents, omniprésents. Et là-dessus, effectivement, nous, qu'est-ce qu'on pèse avec nos petits médias de kiosque? Mais il n'empêche, ce contexte-là, on doit pouvoir... sans verser dans un corporatisme, à mon avis, sans être sur la défensive en tant que journaliste, en disant c'est faux, c'est pas vrai, etc. On doit être partie prenante du débat qui est en cours, parce qu'à la fois, il y a un média bashing évident, on est mis en questionnement tout le temps, toutes les études d'opinion montrent que la presse est en permanence en crise de légitimité, crise de défiance. Mais de l'autre côté, il y a aussi un effet médiavore très important, puisqu'on n'a jamais autant consommé de médias, donc ça, c'est plutôt réjouissant. Comment on les consomme, ça, c'est le défi à mener pour les années à venir. Et peut-être juste là-dessus, c'est que c'est très important de réfléchir à comment on va, notre rapport, quel nouveau contrat on va pouvoir finalement lier avec les citoyens, quel journalisme on va pratiquer pour essayer d'aller à l'encontre de tous ces effets-là.
C'est ça justement, trouver un nouveau contrat de lecture avec les lecteurs, les lectrices dans ce contexte.
Oui, tout à fait, je reconnais tout à fait le contexte que Hugues vient de pointer. Je pense aussi que d'une certaine mesure, alors peut-être que ce que je vais dire, ça manque un petit peu de nuance, bien sûr que ça mériterait d'être nuancé, mais d'une certaine façon, la privatisation totale, le regroupement de l'information entraîne une forme de privation de l'information si on la considère comme un bien commun. Et moi, j'aurais tendance à la considérer comme un bien commun. Voilà, c'est une position. Et je pense que les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs ne sont pas dupes. Voilà, que ce soit les grandes manœuvres financières, la soi-disant neutralité dans le choix des sujets, la couverture de la crise Covid l'a montré. Donc, je pense que de la même façon qu'on ne se sent pas forcément représenté démocratiquement quand on regarde l'Assemblée, quand on regarde les parlements, quand on regarde les gouvernements, qui sont majoritairement composés d'une petite portion de la population, on peut très bien, très facilement, aujourd'hui en Belgique, ne pas se sentir du tout représenté. Je pense que de la même façon, on peut ne pas se sentir représenté par les médias. Les femmes représentent 9% des experts et expertes interrogés aujourd'hui en Belgique francophone dans les médias. Je pense que ce chiffre est absolument vertigineux et encore, ce ne sont que des expertes blanches de peau comme moi. Enfin, il y a vraiment les femmes, d'une façon générale, sont gommées de l'information, que ce soit les études du Global Media Monitoring Project ou les études de l'Association des journalistes professionnels le montrent très bien. Une femme sur deux, à peu près, disparaît de l'information en Belgique. Les femmes expertes ne sont nulle part. Les femmes qui ne sont pas blanches de peau ne sont nulle part aussi. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment des personnes qui sont perdues en fait pour l'information et je pense que ça pose une vraie question démocratique. Est-ce que les médias ont un pouvoir? Bien sûr que les médias ont un pouvoir, mais quand on a un pouvoir, on a aussi une responsabilité qui va avec et qu'il faut pouvoir regarder en face et qu'il faut pouvoir regarder dans les yeux. Donc j'entends toute la réflexion autour des fake news et moi peut-être ma façon d'y répondre c'est mais qui est représenté dans la presse? Évidemment, si on ne raconte jamais ma vie dans la presse ou si je ne me sens pas du tout représentée dans les médias, est-ce que je peux encore leur faire confiance puisqu'ils me disent qu'ils représentent le monde?
Je vous propose d'avancer sur cette question avec le point de vue d'Yves Rézière du magazine Tchac.
Alors, pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de fake news? C'est l'avènement des réseaux sociaux qui a permis à chacun de devenir son propre média, de balancer ses propres infos. Parfois à une ampleur et à une vitesse vraiment mais exponentielle, quoi. Donc ça a fortement joué. Puis il y a peut-être aussi la multiplication des médias, tu vois, qu'on dit citoyens et ou qu'on présente comme alternatifs, mais qui ne sont pas toujours transparents sur leurs projets éditoriaux, sur les méthodes et les recettes qu'ils appliquent et où toutes les balises sont mélangées, quoi. Et puis je pense sincèrement qu'aujourd'hui tout est devenu compliqué et faire la part des choses aussi entre la communication et le journalisme, c'est vraiment très très compliqué. La communication aujourd'hui pour bon nombre d'entreprises et dont les multinationales revient à faire du greenwashing, c'est des fake news, mais ils mettent en place pour ça des techniques, ils en prennent leur clé, leur carte, leur code aux journalistes, et puis ils mettent en place des techniques qui sont vraiment impressionnantes, ils font appel à des spécialistes pour essayer de faire passer leur message, et tout ça fait un espèce de brouillard qui est permanent pour les gens, c'est pas facile de s'y retrouver, voilà. Je pense que ce qui explique la défiance entre les citoyens et les journalistes, mais ça, je trouve qu'on n'assiste pas d'abord suffisamment pour dire qu'il y a aussi une confiance, quoi. Ça me semble quand même primordial de dire ça. Je veux dire, Aujourd'hui, si la presse internationale, nationale ou régionale n'existait pas, je ne sais pas où on en serait en termes de démocratie, quoi. Alors, ce qui explique pour moi la défiance, c'est le fait qu'on assiste à un phénomène quand même de concentration des médias et des régies publicitaires et une fragilisation du modèle économique qui fait que le paysage journalistique, médiatique, se resserre entre une poignée d'acteurs qui sont dominants, quoi. Alors, en Belgique francophone, heureusement, globalement, ça reste pour le moment des patrons de presse, malgré l'épisode de Stéphane Moreau, de Netis et du groupe L'Avenir. Mais ce n'est pas le cas en France, où les médias sont aux mains d'industriels. Et où on a une concentration terrible, quoi. Et donc, où se pose derrière aussi l'indépendance claire des rédactions, quoi. Je pense que c'est fort lié aussi à ce phénomène de concentration, parce que derrière ce phénomène de concentration, il y a aussi le fait que, plus on a de médias, qu'ils soient audiovisuels ou de presse écrite, plus on a une représentation miroir de la société, à la fois en termes de témoignages de terrain, à la fois en termes de chercheurs, d'experts, de politiques. Et donc, cette pluralité des médias, que ce soit des médias de nouveau mainstream ou plus de slow press, elle permet de renforcer le côté miroir de la société. Et quand on renforce ce côté miroir, quand les gens peuvent se reconnaître dans leurs médias, quand ils peuvent reconnaître leurs propos, leurs points de vue, ça leur permet quand même d'avoir une certaine confiance dans les médias.
Vous écoutez La Presse dans tous ses débats, un débat justement avec Sabine Panet, qui est rédactrice en chef d'Accès, Luc Dorzé, rédacteur en chef d'Imagine Demain Le Monde. Et on poursuit notre discussion avec un point qui est avancé d'ailleurs par le collectif Kiosk, c'est la défense de la justice sociale. Il y a souvent dans l'imaginaire que le journaliste, il y a ce critère de l'objectivité, de la vérité, et ainsi de suite. C'est d'ailleurs ce qu'on enseigne aussi dans les écoles, et il y a quand même peu de groupes, de collectifs, de presse qui mettent en avant cette défense de la justice sociale. Une question qui n'est pas si simple que ça, mais c'est pas une question de dissertation, mais est-ce que cette défense de la justice sociale, elle est compatible avec l'exposé des faits, Hugues, selon vous ?
Oui, je pense, j'en suis absolument convaincu. D'abord, rappeler une évidence, mais c'est qu'un journaliste est un être humain, il a des croyances, des opinions, il est issu d'une classe sociale, il a une éducation, la constitution lui permet d'avoir des opinions et de les défendre. Maintenant, est une chose d'être un citoyen et de l'autre journaliste, les deux étant l'articulation entre ces deux facettes, finalement, me sont au cœur de nos métiers, c'est ça qui est fascinant. Alors, on sait que l'objectivité absolue n'existe pas. Moi, chez Imagine, on préfère plutôt parler d'honnêteté intellectuelle plutôt qu'objectivité. Mais je pense que ce qui est important, c'est évidemment de défendre des valeurs, d'avoir des convictions. Ce qui est autre chose de courir pour une cause, un parti politique, une organisation X ou Y. Voilà, alors à chacun de se positionner selon ça. Moi, ce qui me semble important, c'est d'être honnête et cohérent. Honnête par rapport au lecteur, d'abord. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui me semble indispensable. Et chez Imagine, juste pour citer le petit exemple, mais je parlais tout à l'heure de notre manifeste qui a été écrit à plusieurs mains et qui vient compléter notre charte fondatrice. En fait, ces deux textes-là, la charte et le manifeste, figurent sur notre site internet. Donc les lecteurs qui veulent en savoir plus pour se dire, tiens, à partir d'où Imagine parle-t-il ? Quel est son point de vue ? Quelles sont ses convictions ? Ben, il suffit qu'ils lisent le manifeste et tout est dit. Donc nous, on est amplement transparent, entre guillemets. Ce n'est pas pour dire qu'on est meilleur que les autres, mais je suis frappé, on a déjà parlé avec les amis du collectif Kiosque, il y a très peu dans la presse généraliste essayer de trouver la charte rédactionnelle de l'RTBF, de La Libre, du Soir, de savoir quel est le contrat moral qui s'engage numéro après numéro avec leur lectorat. Je trouve que c'est assez essentiel de pouvoir à ce niveau-là, parce que à ce moment-là, ça vide cette question, puisque le point de vue est affirmé, est affiché, est assumé. Donc, moi, j'ai pas de souci avec ça là-dessus. Donc, je crois que ça ne nous empêche pas de faire un travail qui soit du côté de la rigueur, de l'exactitude, des faits, uniquement des faits, et de distinguer ce qui relève de notre point de vue. Il y a un éditorial pour ça, il y a d'autres outils possibles. On a des chroniqueurs qui prennent position de façon affirmée là aussi. Mais je crois que de toute façon, chacun de nos titres, c'est toujours une construction. Fabriquer un magazine, c'est choisir des parts de réel qu'on a envie de mettre en avant, c'est raconter ce qu'on a envie de dénoncer, etc. Et donc voilà, mais c'est un défi permanent de savoir comment alterner nos convictions avec nos engagements déontologiques par ailleurs.
Vous, Sabine, il y a une formule que vous avez citée dans un de nos échanges, c'est que votre mission de journaliste, vous la voyez comme intrinsèquement subversive. Ça ferait peur à beaucoup de journalistes qui diraient, mais ça ne va pas.
Non, je pense que ça les ferait rêver.
Alors expliquez-nous en quoi votre démarche est subversive.
Mais c'est-à-dire que je pense que le langage et la réalité sont liés de façon extrêmement dynamique. Et je pense que dire les mots, c'est dire les mondes. Je pense que j'ai utilisé un petit peu cette formule tout à l'heure qui m'inspire beaucoup et qui vient de Paulo Freire, qui est un pédagogue révolutionnaire brésilien et qui continue à beaucoup inspirer notamment les politiques d'alphabétisation, mais d'alphabétisation sur le monde aussi. Et je pense que le journalisme est une façon de s'alphabétiser sur le monde. Et donc pour moi, dire les faits quand on est dans un rapport de force, c'est déjà être subversif. Et je crois que le monde est structuré par des rapports de force et que si on n'avait pas cette lecture sur les rapports de force qui traversent notre monde, il n'y aurait pas de propos politiques possibles et il n'y aurait pas de propos journalistiques possibles. Nous, les rapports de force qu'on arrive un petit peu à lire à Axel, parce qu'on est plus outillés pour les apercevoir, mais je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui nous échappent. Les rapports de force qu'on lit davantage que d'autres sont les rapports de force... les rapports de sexe, les rapports de classe, les rapports de race, entre guillemets, mais aussi commencer à lire les rapports de force entre humains et vivants, humains et non-humains. Enfin, voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à creuser entre les continents. Et donc, pour moi, dans ce contexte, oui, dire les mots, dire la réalité, c'est extrêmement subversif, puisque cette réalité est structurée par des rapports de force. Et qu'on vit dans un monde où il y a une culture du silence. Je pense que les féministes savent bien ce dont ils se retournent quand on parle de culture du silence, puisque ça fait écho à la façon dont on va silencier les personnes qui sont victimes de violences, d'une façon générale. Mais voilà, je pense que c'est vraiment une expression avec laquelle on peut lire une partie de la société. Il y a beaucoup de choses qui sont passées sous silence parce qu'elles sont données comme naturelles. Et donc, je pense que nous, notre job en tant que journaliste, c'est d'essayer de creuser et de voir ce qu'il y a là derrière et qu'est-ce qui se joue. Et donc, oui, pour moi, ça, écrire des mots dans ce contexte de rapport de force et de culture de silence, oui, c'est subversif. Et nous, on le fait avec trois outils ou trois piliers, trois leviers, je ne sais pas exactement comment les appeler. La déontologie journalistique, qui est vraiment cette paire de lunettes d'honnêteté, en fait, qui nous fait parfois écrire des choses qui ne nous plaisent pas, ou qui vont contre nos intuitions, ou qui vont contre ce qu'on aurait aimé. Mais voilà, je crois que ça, c'est notre engagement. C'est cette déontologie journalistique que j'aime aussi bien comment tu l'appelles, honnêteté intellectuelle. Ensuite, il y a nos valeurs, qui est notre charte éditoriale, qui est des valeurs féministes, des valeurs d'égalité, de justice et de solidarité. Et ensuite, il y a les pratiques, c'est-à-dire notre façon de travailler. Ça, c'est peut-être ce qui est le plus invisible, mais c'est aussi quelque chose que je profite de cette émission pour les visibiliser. La façon de faire du journalisme, pour moi, elle est tout aussi importante que le produit, c'est-à-dire ce qu'on va finalement lire sur, dans un journal, sur un site internet, ou ce qu'on va voir à la télé. Comment est-ce que ça a été fait depuis le début jusqu'à la fin ? Dans les processus entre journalistes, avec les journalistes, avec les témoins, avec toutes les personnes qui gravitent autour, par rapport aux personnes qui vivent la même situation et qui vont lire l'article ou qui vont voir le reportage, comment ces personnes vont être impactées, est-ce qu'on a pensé à elles, etc. Nous, notre façon de le faire, c'est aussi, oui, de penser à toute cette boucle, en fait, à tous ces chaînons, d'essayer de prendre dans la mesure du possible nos responsabilités par rapport à tout ce qu'on publie. Voilà.
Je vous propose d'avancer parce que le temps avance et d'écouter à nouveau Quentin Noirfalis de Médor qui revient aussi sur ce travail, ce reproche qu'on fait parfois aux journalistes d'être trop engagés sur certains sujets.
Beaucoup de gens sont revenus d'une espèce de journaliste entièrement objectif qui verrait les choses depuis une espèce de panoptique où en fait il a conscience de tout. Je pense qu'on parle toujours de quelque part, on parle de notre situation sociale, on parle de notre expérience, de nos études, de notre vécu sociologique et aussi de nos centres d'intérêt. Mais après, on a quand même de toute façon des réflexions comme citoyens. Et après, le journalisme, c'est quand même, de un, pour moi, ça reste quand même un contre-pouvoir qui est efficace, alors qu'il a beaucoup perdu en crédibilité ces 20 dernières années, après un passage au web très compliqué, etc., une ouverture du flot de l'information par Internet qui, évidemment, a tendance à brouiller les cartes, mais ça reste un artisanat avec des règles. Ce n'est pas une profession protégée dans le sens où il faudrait dire des choses parce qu'on aurait tel ou tel diplôme, mais c'est une profession où, en fait, il y a des règles, il y a des manières pour le faire, et qu'à la fin, il y a quand même le but, c'est que la société soit meilleure. Alors après, on peut avoir différentes manières d'imaginer comment est-ce que la société est meilleure. Bah, l'idéal, c'est effectivement qu'on vive dans une société qui soit plus égale, plus égalitaire à tout niveau, avec moins de fossés de richesse, avec effectivement, sans doute, même si notre travail n'est pas de faire respecter les lois, mais de pointer à un certain moment quand tel ou tel acteur est en défaut par rapport à la loi. Et idéalement, plutôt des acteurs qui sont des personnes du côté d'une forme de puissance, oui. Faire la démarche de s'intéresser à un sujet, parce que très souvent, en fait, c'est aussi un des problèmes, c'est que les juristes maintenant n'ont plus le temps d'être spécialisés dans leur sujet. Ils sont obligés d'aller, surtout les freelances, d'aller à gauche, à droite. Mais dans l'idéal, moi, la vision que j'ai du métier, c'est que justement, on connaît très très bien un sujet, et à un certain moment, on est capable de pouvoir, par ce qu'on publie, par ce qu'on diffuse, par ce qu'on recherche, travailler à l'amélioration de quelque chose. Et donc pour moi, c'est déjà la définition de ce que c'est d'être engagé. Et on peut être engagé sans spécialement défendre une orientation politique claire sur un dossier. Et alors ensuite, après, je pense qu'il y a quand même clairement une mission de prise de conscience sur des aspects qui ne sont pas du tout couverts dans la société. Et je pense que relever quelque chose au grand jour, que ce soit révoltant ou moins révoltant, fait partie d'une forme d'engagement. Et je crois qu'en fait, ce que les gens ont aussi perdu de vue, c'est qu'à partir du moment où on passe du temps, par exemple, à passer son temps dans des centres de demandeurs d'asile, à rencontrer des personnes qui ne parlent pas la même langue que soi pour comprendre leur vécu, etc., c'est déjà une forme d'engagement aussi. Enfin, pour moi, sinon, on ne passerait pas autant de temps à faire quelque chose qui, finalement, n'est pas si bien payé que ça. On irait faire de la com pour une boîte. Et je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est assez... qui est assez basique, c'est que le journalisme n'est jamais aussi bon que quand il est en train de révéler une forme d'injustice ou quand il est en train d'essayer de soulever quelque chose qui, à un certain moment, va toucher à la vie des citoyens. Ça va de l'affaire Nettis, c'est pas que des gens qui, finalement, se mettent des frais de réunion dans la poche. C'est aussi des gens qui utilisent de l'argent du contribuable qui pourrait être utilisé autrement, en fait.
Thank you.
De retour pour la dernière partie de ce débat, la presse dans tous ses ébats et ses débats et ses états. Une dernière question avant d'écouter le témoignage de Martine van de Meulebroek, une journaliste indépendante. Mais on parlait à la fois de confiance avec les citoyens, les citoyennes, de défense sociale. Est-ce que vous trouvez actuellement qu'il y a une place suffisante dans la presse belge, hein, et pas seulement dans vos médias respectifs, pardon, pour décrypter, analyser les mécanismes inhérents à la création des inégalités? Souvent, c'est mêlé dans la rubrique sociale, mais ça veut tout dire et ça veut rien dire, j'ai l'impression, dans les médias traditionnels. Alors, qui se lance, Hugues?
Oui et non, je dirais. Parce que tout à l'heure, je parlais de la nécessité de renouer des nouvelles formes de médiation, une nouvelle forme de contrat avec les citoyens. C'est pour citer notre consoeur Anne-Sophie Novel, qui a écrit ce livre et ce documentaire « Les médias, le monde et moi », qui rappelle qu'en fait, pour précisément être au plus près du réel, ce qui est un peu notre volonté à tous et à toutes, c'est d'être des observateurs les plus acérés, les plus aussi informés. Il y a plein de moyens de le faire. Alors, on a parlé de l'investigation tout à l'heure. Ça peut être le fact-checking, ça peut être des nouvelles formes de narration, ça peut être du journalisme de données, de data, un journalisme d'impact davantage tourné vers les solutions. Enfin, peu importe finalement, les techniques journalistiques, mais je pense qu'on a tous une volonté, du moins au sein du collectif Kiosk et de ceux et celles qui défendent un journalisme innovant, c'est d'être dans un journalisme qui soit d'impact, qui soit d'utilité sociale, qui soit au plus près de la réalité. Et comment on fait remonter tout cela? Parce que c'est ça l'enjeu aussi, parmi la défiance, on en parlait tout à l'heure, je crois que c'est d'aller chercher, de sortir d'abord de notre tour d'ivoire, de notre piédestal, parce que ça a été pendant très longtemps les journalistes de tout en haut qui regardent la société de tout en bas. C'est totalement fini, ça. Je veux dire, on est obligé d'avoir maintenant une approche horizontale, au plus frontale, je dirais, de confrontation avec le réel, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les crises, elles sont sociales, elles sont écologiques, elles sont démocratiques, etc., etc. Donc, elles se conjuguent. Donc, moi, je pense qu'il y a trois choses pour en sortir. C'est un, la première, c'est interconnecter au maximum les problématiques, ne plus être dans une logique de silo, se dire que la politique, l'économie, l'écologie, comme si c'était des espèces de compartiments, c'est faux. Maintenant, aujourd'hui, tout est dans tout, toutes les crises se conjuguent et s'interpénètrent. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a cette nécessité d'humilité de la part des journalistes, de plus en plus, Sabine en parlait tout à l'heure, d'être au plus près des plus vulnérables, et ils sont de plus en plus nombreux parce que la crise sociale s'aggrave, parce que le fossé est très inquiétant, et donc on a un devoir journalistique de ne plus parler uniquement de la classe dominante, mais aussi des dominés, des oubliés, des invisibles. Enfin, on peut discuter longtemps sur les mots. Et la dernière chose, je crois qu'on a, pour y arriver, inventé des techniques nouvelles. Alors, ça peut être le journalisme interactif, ça peut être associer les citoyens dans nos panels, ça peut être de s'installer dans un lieu et faire un journalisme au long cours pendant plusieurs jours, etc., etc. Donc, je pense que là, il y a plein de formes de journalisme qui émergent et qui sont passionnants et qui, je crois, vers lesquels on trouvera notre salut collectif en allant vers ces nouvelles formes de narration, je pense, journalistique.
Sabine, justement, par rapport à cette place aussi, j'imagine qu'après tout ce que vous nous avez évoqué, cette place est insuffisante et j'imagine aussi que ce piédestal, cette horizontalité ou aussi le fait que tout est dans tout par rapport aux crises, c'est quelque chose aussi dont on ne peut plus passer dans la réflexion.
Oui, tu disais, Pierre, est-ce que dans la presse francophone, d'une façon générale, est-ce qu'on a l'impression que les inégalités sont assez traitées? Mais je pense que pour les traiter, il faut les voir, il faut les considérer comme un sujet journalistique. Et ça, je pense qu'il y a aussi un travail, de la même façon que je disais que les mots et la réalité sont dans une relation dynamique. Je pense que la diversité des rédactions et la diversité des sujets sont aussi dans cette relation dynamique, qui n'est pas une relation uniquement de cause à effet, mais qui est vraiment une relation de dialogue. Et je pense que la façon de rendre des sujets légitimes, elle vient parce qu'il y a la société civile qui bouge et parce qu'il y a les rédactions qui bougent. Pour vous donner un exemple très simple, j'ai l'impression, moi je suis française, je vis en Belgique depuis une quinzaine d'années maintenant, et donc j'ai toujours un regard sur la presse française et sur la presse belge, et j'ai l'impression qu'à la suite du mouvement MeToo qu'il y a eu à partir de 2017, que certains sujets en lien avec les violences envers les femmes ont pu faire la une des médias en France, et que ça, c'est un changement auquel j'assiste. Il y a encore 10-15 ans, c'était inimaginable d'imaginer, de penser que Le Monde ou Libération allaient faire leur une sur des sujets en lien avec l'inceste, par exemple. Et ça a eu lieu plusieurs fois ces dernières années. C'est à la fois parce que la société civile s'est mobilisée et qu'il y a eu une lame de fond, mais aussi parce que les rédactions ont changé de l'intérieur et que dans l'intérieur de ces grandes rédactions, il y a des journalistes extraordinaires. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand je pense à elles, j'ai des frissons qui me traversent les chines, qui ont fait un boulot de dingue pour faire en sorte que ces sujets soient légitimes. Et donc, oui, est-ce qu'on veut voir les inégalités? Pour moi, c'est à prendre dans ces deux bouts-là. Et je pense que ça va aussi avec... faire en sorte que ces sujets soient légitimes, ne soient plus relégués aux pages famille, buzz ou aux pages judiciaires, mais que ce soit des sujets politiques, des sujets sociaux. Tu disais tout à l'heure sujets sociaux, et en même temps, est-ce que enfin, beaucoup de sujets en lien avec les inégalités ne sont même pas au stade d'un sujet de société, quoi. C'est plutôt relégué en fin des pages, et la plupart encore aujourd'hui des personnes non blanches que tu vois, elles sont dans les pages sport. Bon, voilà, je sais pas si c'est vraiment très... Voilà, non, je pense que vraiment il y a encore énormément de travail à faire. Mais je pense que certains sujets sont devenus plus légitimes à être en une des grands médias, y compris des médias mainstream, parce qu'à l'intérieur de ces médias, il y a des humains et des humaines qui travaillent et qui prennent les choses à cœur et qui ont envie vraiment que ça bouge. Et j'ai encore l'impression qu'on a une marge supplémentaire de progression en Belgique pour dire les choses comme ça. Mais je pense qu'il y a aussi énormément d'alliés au sein des rédactions à se faire, et que... parfois on a intérêt à progresser ensemble, et notre façon... peut-être à nous de concevoir la presse indépendante à kiosque, elle doit encore être énormément discutée collectivement, et en même temps on avance avec cette presse mainstream, on se construit pas contre elle, on se construit simplement pour nous, par rapport à là où on est nous, avec notre lectorat depuis 25 ans pour nos trois titres, et depuis longtemps aussi pour les titres qui composent ce collectif. Et la presse mainstream est là, et rendre les sujets des inégalités légitimes, c'est pas juste chez nous, c'est vraiment, oui, un travail collectif qui doit se faire, et mes mots sont allés un petit peu plus loin que le fil, je pense, de ta question. J'en suis désolée.
C'est très bien, ça nous permet d'avancer, même de clore tout doucement ce débat en écoutant justement sur cette place suffisante dans la presse belge le témoignage de Martine van de Meulebroek, qui est journaliste indépendante, mais qui a été longtemps une plume du journal Le Soir. Elle évoque son expérience et son parcours.
La place marginale du social dans les médias a, selon moi, toujours existé. Au début des années 80, le social n'était même pas un sujet. Au soir, on suivait les interlocuteurs sociaux, mais tout le reste, tout ce qui touchait à la pauvreté, à l'associatif, à la toxicomanie, ou que sais-je encore, bref, le social au sens large, ça n'a jamais intéressé personne. Sauf quand il y avait une actualité particulière qui pouvait faire l'objet d'un reportage ou d'un micro-trottoir. De mon expérience, dans la presse écrite et au soir plus précisément, j'ai toujours dû batailler pour faire exister ce sujet. Le problème, ce n'est pas seulement la place allouée aux sujets sociaux. C'est aussi la manière d'en rendre compte. C'est quelque chose qui m'a toujours frappé au soir. Si j'arrivais avec des reportages en temps de crise, le marronnier par excellence, c'est les sans-abri en hiver, alors ça passait. Mais parler du phénomène du sans-abrisme d'une manière plus large et structurelle, c'était inenvisageable. Une anecdote très révélatrice. Il y a eu en 2009-2010 une grosse crise de l'accueil des demandeurs d'asile. À la suite de ça, le SAMU social et le ministère de l'Intégration sociale avaient organisé une conférence de presse pour expliquer le dispositif qu'ils allaient mettre en œuvre pour solutionner les problèmes d'hébergement d'urgence des sans-abri et des demandeurs d'asile. Bon, alors que j'étais en chemin pour aller à la conférence de presse, je reçois un appel de la rédaction. « Martine, n'y va pas, ça ne nous intéresse pas, tu feras un reportage en décembre. » La question du temps est aussi cruciale. Aujourd'hui, il faut produire avant tout. Et produire, ça se fait par des coups de téléphone, pas en allant sur le terrain, qui est considéré comme une perte de temps. Et ce manque de temps me causait un vrai désespoir à la fin de ma carrière au soir. J'avais un ou deux articles à produire par jour, et je n'avais donc le temps que pour des coups de téléphone à des associations, etc., et plus pour rencontrer les gens. En étant freelance et en travaillant pour la presse indépendante, j'ai retrouvé ce plaisir de travailler, celui d'aller à la rencontre des gens et de renouer avec les bases du métier.
Et voilà, c'est déjà la fin de ce débat. Le temps passe vite et la presse reste dans tous ces débats. En tout cas, je vous remercie Sabine Panet, rédactrice en chef d'Axel, Luc Dorzé, rédacteur en chef d'Imagine Demain Le Monde, d'avoir répondu à mes questions. Je remercie aussi Flavien Gillier pour de BNA au niveau de la technique, Marie-Ève Merckx qui a coordonné cette émission et a réalisé les capsules que vous pouvez bientôt retrouver sur le site d'alterico.be, ainsi que l'intégralité de ce débat. Et ben, quant à nous, on se retrouve bientôt pour un prochain débat de la rédaction d'Alter Echo. Ce sera après l'été et le sujet concernera les inégalités scolaires. À bientôt et merci.
La presse dans tous ses débats, une émission proposée par l'agence Alter en partenariat avec Bruxelles nous appartient, enregistrée depuis la Maison de la presse et de la communication de Liège.